œuvres racontaient l'histoire de la fidélité, ou plutôt l'histoire d'une femme. C'est comme si dans sa vie, elle avait eu des rendez-vous réguliers avec cette question. La fidélité, oui, mais laquelle? Fidèle à toi, à moi, fidèle au passé, au présent. Mais un présent existe-t-il qui ne soit pas saturé de passé? Fidèle à quoi, en fait? À un idéal, à une exigence, ou juste à la vie? Et puis il y a les fidélités multiples, ces fidélités contradictoires qui font qu'un jour, elle se retrouve en larmes dans sa salle de bain, en larmes et en morceaux, parce qu'elle a fait du mal. Pourtant, c'est peut-être le moment où elle a été le plus honnête, mais il faut croire que ça ne suffit pas à l'honnêteté. Et maintenant, elle lui dit « Je ne t'ai pas trahi ». Maintenant, elle lui dit « c'est moi que j'ai trahi ». Et lui répète cette phrase qu'elle lui a dit, c'est le passé qui revient. Une phrase qui rend fou parce qu'elle dit la vérité et que cette vérité est insupportable. Mais c'est comme ça, quand le passé revient, on n'y peut rien. Il était là avant le passé, alors qu'est-ce que tu veux y faire? Qu'est-ce que tu veux y faire à part gueuler et en baver? Peut-être qu'on pourrait s'en sortir de cette question de la fidélité grâce à la proposition que fait Jacques Lacan à la fin de son séminaire « L'éthique de la psychanalyse ». Il la formule à peu près en ces mots. « La seule chose dont l'homme a vraiment à se sentir coupable, c'est pour autant qu'il a cédé sur son désir. Bref, ce qu'on paye vraiment, c'est d'avoir trahi son désir. Mais attention, pas ses désirs, son désir. Cet axe autour duquel gravite toute notre vie psychique. » Ce n'est pas très clair, surtout que l'objet de ce désir est inconscient. Mais on comprend quand même, on devine, on approche. Être fidèle à son désir, c'est être fidèle à sa quête. Être à la hauteur de ce qui manque. Ça lui parle, ce truc de Lacan. Évidemment, on ne sait pas trop quand on lui est fidèle à ce désir, mais on voit quand même à peu près quand on le trahit, quand on s'en éloigne. Car alors, le corps ne ment pas, les symptômes sont là, et la vie ne fait pas de cadeaux. Ça lui parle bien, ce truc de Lacan. Alors elle arrête de pleurer, elle se regarde dans le miroir et malgré les yeux rougis, malgré la buée, elle se trouve pas mal. Elle se dit qu'il lui reste du temps, une vie entière peut-être même, pour se rapprocher de son désir, pour essayer en tout cas de le trahir un peu moins. Pour en parler ce matin, de désir et de fidélité, j'ai la joie de recevoir une cinéaste qui sait si bien le filmer, ce désir, Claire Denis, grand prix du dernier Festival de Cannes pour Des étoiles à midi, près de 35 ans après son premier film, Chocolat. Claire Denis, dans le dernier film, Avec amour et acharnement, sort dans une semaine, en salle, le 31 août, et traite précisément de cette question du désir. Claire Denis, tellement fidèle à ses acteurs et actrices, dont Juliette Binoche, Grégoire Collin, Vincent Lindon, tous les trois à l'affiche d'Avec amour et acharnement. Avec amour et acharnement, Claire Denis, donc, qui nous a rejoint sous le soleil de Platon, dans la caverne de France Inter, et je parlais de Lacan en plus, pour nous aider à réfléchir à cette belle question. La fidélité, oui, mais laquelle?
Sous le soleil de Platon. Charles Pépin sur France Inter.
Alors Claire Achard-Denis, bonjour.
Oui, je suis acharnée un peu, c'est vrai. Je pourrais être une acharnée.
C'est ça que ça devait vouloir dire. Alors, j'ai trouvé ce film assez bouleversant, avec amour et acharnement donc. Mais c'est bizarre ce lapsus, parce que c'est vrai qu'au fond, je trouve le titre assez bizarre. Je me demande où est l'acharnement.
Je crois que ça s'est passé d'une manière un peu étrange aussi, parce qu'il n'y avait pas de titre. Ouais. Je savais que ça, même si c'est adapté d'un livre de Christine Angot, je savais que ça ne pouvait pas être le titre du film, parce que le livre de Christine, il parle d'elle, de sa vie à elle, et je pensais que, enfin, d'emblée, je savais qu'il fallait qu'on aille vers ailleurs.
Ouais.
Et il n'avait pas de titre un jour. C'était un film où il y avait beaucoup d'émotions sur le plateau.
Ouais.
Juliette me dit, mais tu le fais comment ce film? J'étais fatiguée, je lui dis, je le fais avec amour et acharnement.
Ah,
et Vincent Lindon a dit, mais voilà le titre du film.
Ouais, c'est ça. Alors c'est l'histoire, donc je vais pas trop dévoiler l'histoire, mais disons qu'il y a un trio, il y a une femme qui retrouve son homme qui sort de prison, et puis elle retrouve en même temps un amant, un amoureux du monde d'avant, et le passé comme ça revient, et voilà, je ne dis que ça. Mais pour moi, ça pose vraiment la question de la fidélité, et c'est une question que je voudrais vous poser à vous, cinéaste. On vous sait très fidèle à vos équipes de tournage, à des acteurs, à des thèmes, mais au fond, quelle est la fidélité qui vous travaille le plus?
J'essaye d'être fidèle à une sorte de forme, en fait, parce que c'est compliqué de s'aventurer dans un projet de film, même si on a avec soi des acteurs qu'on connaît, qu'on a confiance en eux, en elles, une équipe pareille, et un producteur. Il y a quelque chose... le film, il faut être fidèle à l'envie d'une forme, pas fidèle seulement à l'envie de faire un film. Un film, c'est quand même quelque chose de qui apparaît comme ça dans l'espace, comme une constellation. Il faut que ça ait une forme. Et ça, c'est la fidélité absolue.
Mais alors, cette forme, vous la voyez avant, et c'est comme une note que vous allez vouloir tenir, ou vous la réinventez au fur et à mesure du tournage ?
Ah non, faut la voir avant. Il faut la voir avant même le scénario, presque. Il faut se dire, voilà, il faut... Cette forme-là, elle vient pas tout de suite, mais elle vient soutenir l'écriture du scénario, l'agencement. Enfin, là, en l'occurrence, il y avait des scènes qui venaient complètement directement du livre de Christine, Christine Angot, mais il fallait quand même que ça soit dans une forme, et sinon ça marche pas. Et donc voilà, c'est quelque chose qui va soutenir tout le film, et le montage, et le tournage, tout.
C'est d'ailleurs très troublant dans ce film, on ne sait rien du passé des trois protagonistes. On ne sait même pas pourquoi il y en a un qui sort de prison, on ne sait pas ce qu'il a fait. On ne sait pas non plus ce qu'ont fait les autres dans le passé. Et alors on se dit, mais alors vous filmez le présent. Et en même temps, leur visage, leur corps, au présent, sont complètement saturés de passé.
C'est vrai, j'adorais cette phrase de Christine. Ah ben c'est le passé qui revient. Comme un reproche que fait Jean à Sarah, mais je trouvais que c'était quelque chose de très important pour le film, parce que dans la vie, c'est cette espèce de tentacule qui arrive par derrière et qui serre le kiki.
C'est marrant ce que vous dites, parce que moi, pendant que je regardais le film, j'ai été envahi par une phrase, une idée, c'est que le passé est en embuscade. Et là, vous dites tentacule. Alors, c'est marrant, j'avais ce truc qui me résonnait dans la tête. Alors, on va écouter cet extrait-là. Et il est d'autant plus troublant qu'après, je suis allé voir dans le livre de Christine Angot. Et c'est incroyable, comme c'est pour le coup, il n'y a même presque pas d'adaptation. C'est presque le même dialogue. Alors, on va l'écouter.
Excuse-moi. Si je t'ai fait du mal par manque de confiance en moi, par peur, par...
T'as pas avoir peur. J'ai pas peur. Je suis avec toi, moi.
Mais moi aussi, Jean, je suis avec toi. Je suis pas ton ennemi. C'est pas facile, tu sais. Mais ça va aller. C'est le passé qui revient, là. C'est bizarre. C'est un moment, c'est tout.
Si le passé revient, ben... moi, je m'en vais, alors. Parce que j'en ai rien à foutre du passé qui revient. Alors, s'il revient, je m'en vais. Le passé qui revient... Mais dis donc, c'est qui revient ? La vache.
Alors Claire Denis, j'ai entre les mains le livre de Christine Angot, le roman Un tournant de la vie, sorti chez Flammarion en 2018. Christine Angot, il sera d'ailleurs à votre place demain, c'est un hasard de la programmation. Et j'ai été scotché parce que c'est vraiment le même dialogue. Et alors, ça veut dire deux choses, je crois, assez puissantes, et sur ce qu'est la littérature, et sur ce qu'est le cinéma. Parce que dans les deux cas, vous faites partie des artistes, vous comme elle, qui peuvent être attaqués quand des gens ne comprennent pas, ont l'impression que c'est juste une caisse d'enregistrement du réel. Alors qu'en fait, c'est tout à fait autre chose. Parce que la note est tenue, parce qu'il y a une cohérence, eh bien on tombe dans la littérature, on entre dans le cinéma justement. Mais ce qui est très troublant, c'est de voir que là, les deux se retrouvent presque mot pour mot.
Mais c'est normal parce que moi, je retrouve Christine aussi, hein. Et que j'ai commencé, la première fois que j'ai filmé des mots de Christine, j'ai filmé en fait une lecture d'Avignon, et je suis sortie de la lecture et j'ai dit à Christine, tu vois, Christine, tu te poses parfois la question de l'adaptation au cinéma, mais peut-être que le plus facile, c'est de filmer tes mots. Mais pour ça, il faut avoir une forme. Parce que s'il n'y a pas de forme autour, on n'y arrive pas à filmer les mots.
Et d'ailleurs, parfois, vous préférez même enlever des mots. Et beaucoup dans votre cinéma, beaucoup de silence. Il y a parfois, vous enlevez du dialogue. Et parfois, il y a de la musique. Comme s'il fallait faire résonner quelque chose, parfois, sans les mots.
Ouais, parce que sinon, je ne sais pas comment dire. Le cinéma et le bouquin, ils ont un rapport. Mais un rapport qui ne se passe pas au même moment, justement. Le présent du livre n'est pas le présent du film. Le présent du film, il vient après, comme s'il fallait réinventer un présent. Et finalement, le passé, c'est le livre, au fond, presque, d'une certaine manière.
Mais finalement, qu'est-ce que vous filmez? Désolé, la question est un peu abrupte, mais qu'est-ce que vous filmez? Est-ce que vous filmez le présent, sur les visages, sur les corps? Est-ce que vous filmez ce que le passé fait au présent? Est-ce que, carrément, vous filmez le temps, au fond?
Alors, filmer le temps, c'est quand même le peut-être... enfin, là, il n'y a pas très longtemps, on a vu les photos de ces constellations.
Oui, c'est dingue, elles sont dingues.
Et moi, j'adore, j'avais amené justement un bouquin d'Aurélien Barreau, parce que c'est ma folie, ça, pour moi, de penser qu'on voit le présent il y a 13 millions d'années. Ouais, quoi.
Le temps qu'il nous arrive.
Ouais, le temps qu'il nous arrive... Mais aussi, le temps, nous n'avions aucune chance d'exister, finalement. C'est ça qui est fou. Cette espèce de... Moi, je comprends rien à la relativité du temps. Mais je la ressens comme tout le monde. Et c'est ça qui est important quand on filme, c'est d'y croire.
D'ailleurs,
même si on comprend rien.
D'ailleurs, dans votre film High Fire, je crois que Aurélien Barreau était votre conseiller.
Ouais.
Parce que justement, ça se passait dans l'espace, ils allaient vers un trou noir et...
Ouais, moi, je voulais comprendre cette histoire du temps. Enfin, comprendre, non. Je peux pas la comprendre, mais essayez.
En tout cas, on imagine que c'est fascinant pour une cinéaste comme vous de voir ces images, comme vous l'avez très bien dit, non seulement qui datent de juste après le Big Bang, mais en plus, comme vous l'avez très bien dit, j'avais jamais pensé à ça en ces termes, qui parlent d'un temps où nous n'avions quasiment aucune chance, d'arriver, mais finalement, nous sommes arrivés quand même. D'ailleurs, ma question aussi, elle était liée aux acteurs que vous filmez. Par exemple, dans votre dernier film, qui sort dans une semaine, avec Amour et acharnement, il y a Vincent Lindon, vous avez beaucoup filmé quand il était plus jeune, Juliette Binoche aussi, mais plus encore Grégoire Collin, que vous avez filmé quand il avait 15 ans, puis 18 ans, puis je sais pas, une vingtaine d'années dans Beau Travail, un film que j'ai adoré. Et là, c'est une... Bon, on va pas dire un salaud, enfin, c'est un homme en tout cas en milieu de vie, et son physique a changé. Mais alors là, qu'est-ce que vous faites? C'est quand même dingue comme histoire de filmer un homme comme ça, vous le filmez en fait vieillissant, changeant, s'épaississant, se prenant quasiment des coups de pelle en fait.
Ouais, moi je le trouve quand même toujours superbe, comme je le trouvais superbe quand il avait 15 ans. Parce que je pense que Grégoire, c'est un acteur un peu particulier qui s'insinue dans les films. C'est pas quelqu'un qui s'affiche, c'est quelqu'un qui s'insinue.
C'est vrai.
Et ça lui donne une sensualité que j'aime beaucoup, que je ressens.
Ouais, mais si je pose la même question avec Vincent Lindon, dans Vendredi soir, il était plus jeune,
oui.
Il était assez irrésistible. Là, il a une virilité, mais plus blessée,
oui.
Abîmée par la vie, encore une fois épaissie. En fait, vous filmez, en l'occurrence, ce que le temps fait au corps des hommes.
Et des femmes aussi,
oui, bien sûr,
mais oui, mais c'est pas un but pour moi ce que ça fait au corps, parce que mon corps aussi, il en prend plein la gueule, mais j'ai l'impression que la vie c'est court au fond, alors ça m'intéresse pas de chaque fois, enfin je trouve que le compagnonnage c'est formidable, voilà, ça aide à vivre et ça me permet d'être heureuse. De faire ces films.
Ouais. En tout cas, c'est on sent la fidélité, c'est votre fidélité. Il y a toute une bande comme ça, il y a aussi Alex Descas, il y a Denis Lavant. Qu'est-ce que vous créez comme ça, avec le temps, avec maintenant les décennies, avec ce compagnonnage au fond?
Des liens fragiles, hein, parce que on a chacun nos vies et on se retrouve que quand c'est possible, il faut beaucoup de conjonctions pour qu'un film soit possible. Donc c'est pas toujours possible. Mais quand même, enfin je pense qu'il y a quand même quelque chose de si bref dans le temps d'un film et dans le temps d'une vie que s'il n'y a pas ces retrouvailles, moi je trouve que ça vaut pas le coup. Et qu'est-ce que ça veut dire? Je sais pas. Ça veut dire que moi, ça m'aide à faire les films parce que ça me donne un but.
Je vais insister un peu, c'est mon rôle, hein, je joue ce rôle, et puis ouais. On est sous le soleil de Platon. C'est l'âme que vous cherchez, c'est-à-dire la permanence au fond. Grégoire Collin, il a une permanence, malgré le changement.
Oui.
Vincent Lindon, Juliette Binoche, Denis Lavant aussi, ou alors au
Alex
contraire...
Alex Escasse aussi.
Ouais, ou alors au contraire, c'est le changement qui vous intéresse.
Le changement, je sais qu'il est là, dans cette image. Mais ce qui m'intéresse, c'est la permanence. Parce qu'au fond, moi, je change en même temps qu'eux. Donc, on a un rapport temps qui est un peu le même. Mmh. Ben, ça compte. She's been going round the business as usual. Always with that melancholy smile that you wear. Too busy looking into your eyes, yeah. To see those tiny tears in her eyes. Tiny tears make up an ocean. Tiny tears make up the sea. Let them pour out love. Don't let them pour love on me. How can you hurt someone so much? You're supposed to care for someone, you said you'd always be there for. But when that water breaks, you know you're gonna cry. When those tears start rolling, back. But tiny tears make up an ocean. Tiny tears make up a sea. Let them pour out.
C'était les Tindersticks, Teeny Years.
Sous le soleil de Platon. Charles Pépin, sur France Inter.
Tiny Tears me corrige, Claire Denis.
Petite larme.
C'est consternant de parler anglais comme ça, je suis d'accord. Alors nous sommes toujours avec Claire Denis, nous parlons de ce film qui sort dans une semaine, avec amour et acharnement. Alors, dans toutes vos fidélités, il y a justement cette fidélité à ce groupe, les Tindersticks, et à ce chanteur qui souvent compose la musique de vos films. Une musique surtout pas illustrative, une musique qui est souvent présente, presque comme un personnage.
Oui. Je crois que Stuart, il interprète...
Stuart, comment ?
Stuart Staples.
C'est le chanteur des Tindersticks, ouais, le compositeur.
Ouais. Il a sa vision aussi. Et ce qu'il y a d'étrange, c'est que même deux personnes aussi différentes ont pu se rencontrer à un concert au Bataclan il y a bien longtemps et être toujours plus ou moins sur la même longueur d'onde. Ça, je trouve ça fou.
Ouais, vous êtes vraiment une femme de fidélité. Alors que moi, j'avais envie de vous questionner sur votre façon de filmer le temps, les corps qui aussi vieillissent, puisque c'est les mêmes acteurs qu'on retrouve tout le temps. Vous avez été plus platonicienne encore que moi, en disant, mais non, en fait, ce qui m'intéresse, c'est au fond ce qui ne bouge pas, la permanence, et que j'avais osé appeler en platonicien ou presque en plotinien l'âme. Oui. Et ça, c'est quand même vraiment intéressant. Ça veut dire aussi que vous cherchez... parce que moi, la question que j'ai envie de vous poser, c'est au fond, qu'est-ce que... qu'est-ce que vous filmez vraiment? Quand est-ce que c'est vraiment du cinéma? Je vais prendre deux exemples, deux scènes que j'ai adorées dans ce film avec amour et acharnement. La première, alors, ils se retrouvent, c'est un couple, et ils nagent dans la mer. Et ça pourrait être réaliste, mais en fait, il y a quelque chose qui décolle, quelque chose de merveilleux dans l'image, dans l'ambiance, dans le son. Donc, question, est-ce que ça devient du cinéma quand le réalisme est traversé par autre chose? Et je redouble ma question par une autre scène, qui est paradoxalement la scène de la même femme, Juliette Binoche, Sarah, mais avec cette fois l'homme revenu du passé, François, je crois. Le précédent, c'était Jean. Et c'est la scène où ils vont pour la première fois se toucher un peu les joues, les lèvres. Et là aussi, le réalisme de la scène, à la différence de la plupart des autres scènes du film, est traversé par un truc, je ne sais pas comment l'appeler, est-ce que je l'appellerai du rêve, de l'onirisme, du merveilleux, de l'enchantement, je ne sais pas. Est-ce que ça vous va si je vous dis que, au fond, mais c'est une hypothèse, hein, moi je ne suis pas cinéaste, que le cinéma c'est quand quelque chose du réalisme est traversé par autre chose que le réel?
Je crois, oui, parce que ces deux scènes que vous citez, moi peut-être je ne les ai pas pensées avec vos mots, mais il y avait quand même cette scène de la mer, je crois, l'ouverture du film, c'est le prologue, c'était très important pour moi, ça me donnait la possibilité d'entrer dans leur quotidien de vie. Ouais. C'est-à-dire qu'il y avait au départ cette base qui était que les vacances ensemble, c'est aussi un moment très particulier dans une vie amoureuse. Et je voulais qu'il y ait ça. Et donc, on n'avait pas beaucoup d'argent et on l'a filmé avec un portable.
C'est dingue,
ouais. Et il y a eu cette magie de savoir que c'était comme un petit morceau qu'on arrachait à une rêverie amoureuse, quoi. Voilà. Après, les retrouvailles de Sarah et François, je pensais qu'elle avait tellement peur de s'approcher de lui qu'il fallait presque reculer le temps, quoi. Que chaque marche où qu'elle monte vers lui, je pense que c'était aussi une question d'enchantement.
C'est ça.
Dans les deux cas, ouais. Ouais, c'est vrai.
Mais alors du coup, parce qu'il y a ça dans beaucoup de vos films, même de votre premier film, Chocolat, il y a ça. Dans Beau Travail, que j'évoquais en 99, il y a ça dans plein de films, hein, Trouble Every Day aussi. Mais du coup, c'est une question. Ça veut dire que quand le cinéma est simplement réaliste, au sens propre, il rate quelque chose?
Je ne sais pas s'il rate quelque chose, parce qu'après tout, je n'en sais rien. Mais je pense qu'il faut quand même suivre un petit peu ces intuitions qu'on a quand on parle de la forme, de ce que pourrait être un film. C'est qu'il y a des moments clés, pour moi, presque avant même qu'il y ait le scénario, ces moments-là qui me font presque trembler à l'intérieur. Je me souviens, dans Nénette et Bonnie, c'était quand Grégoire Collin volait le bébé qui le tenait dans ses bras. C'est des moments que j'attends.
Voilà. Donc vous avez eu la vision. Alors c'est assez amusant parce qu'on est à la fin d'un été de rencontres sous le soleil de Platon et c'est la dernière semaine. Et j'ai confronté cette question à plein d'invités. Et en fait, parmi les artistes, les écrivains, les cinéastes, les chanteurs, les compositeurs, en fait, il y a deux catégories. Il y a ceux qui sont comme vous ou comme Alexis Michalik ou comme d'autres. Ils disent voilà, en fait, j'ai ma vision. En fait, je vais m'y tenir. Et pour moi, l'art, c'est d'être fidèle à une note que je sais devoir tenir. Et il y a les autres qui disent, en fait, ça ne se passe pas comme ça. Et pour moi, l'art me prend parce que, précisément, autre chose advient qui n'est pas, au fond, ce que j'avais prévu.
Bah, y a les deux, en fait. Parce que dans un film, il va advenir tout le temps des choses pas prévues, sans arrêt. C'est même, on est criblé comme de balles. Mais en fait, quand je dis de balle, je m'excuse par rapport à l'Ukraine, je devrais pas le dire, mais j'ai l'impression que parfois c'est comme une pluie de cailloux qui arrive sur un tournage. Mais pourtant, il faut qu'il y ait ces scènes un petit peu qui, moi, m'ont relié secrètement au film. Des scènes dont j'ai besoin, moi. Et voilà. Mais je crois que c'est les deux pour moi, vraiment.
Qui sont comme des repères. Alors très souvent, vous partez...
C'est mes bouées, pardon.
Non, mais c'est des bouées. Ouais. J'aime bien l'idée. La mer est agitée, mais il y a des bouées. Alors, vous partez souvent de romans. Dans Vendredi soir, par exemple, c'est un roman d'Emmanuel Bernheim. Celui-ci, c'est un roman de Christine Angot, avec Amour et acharnement. Le roman porté pour titre Un tournant de la vie. Des étoiles à midi, donc votre film primé, qui a recueilli le Grand Prix au Festival de Cannes en mai dernier. C'est adapté d'un roman de Denis Johnson.
Oui.
Comment ça se fait que vous partiez si souvent du roman? Et pour poser ma question, je vais vous faire écouter un extrait de Gilles Deleuze, qui est un des philosophes qui a le mieux pensé le cinéma.
Il y a des idées en cinéma qui pourraient être d'excellentes idées en roman, mais elles n'auraient pas la même allure du tout. Et puis il y a des idées en cinéma qui ne peuvent être que cinématographiques. Ça n'empêche pas, même quand il s'agit d'idées en cinéma qui pourraient avoir une valeur en roman, elles sont déjà engagées dans un processus cinématographique qui fait qu'elles sont vouées d'avance. Et ce que je dis compte beaucoup, parce que c'est une manière de poser une question qui m'intéresse: qu'est-ce qui fait qu'un cinéaste a vraiment envie d'adapter, par exemple, un roman? S'il a envie d'adapter un roman, il me semble évident que c'est parce que il a des idées en cinéma qui résonnent avec ce que le roman présente comme des idées en roman. Et que là, se font souvent de très grandes rencontres.
Alors, Claire Denis,
C'est beau d'entendre ça.
Ouais. Il y a tout, enfin, il y a beaucoup de choses.
Ouais.
Il est aussi un peu barré, ce Deleuze, quand même.
Mais pas tellement, quoi. Parce que quand je pense... Pardon, je peux dire?
Mais bien sûr.
Alors, je pense toujours à... je parlais tout à l'heure de Faulkner, et je pense toujours à ce que Godard, quand il cite Faulkner, et quand on voit le trajet que Faulkner, que la comète Faulkner fait dans ses films, ça me bouleverse. Ça me déchire même, parce que c'est comme un... ça veut dire que c'est comme des corps qui se rencontrent, et ça fait l'étincelle qu'il faut.
C'est beau, cette idée de rencontre, ouais. Mais on pourrait se demander si la rencontre a lieu parce qu'il vous a semblé que quelque chose dans le roman était manquant, ou au contraire, qu'il était tellement achevé que ça vous a donné l'idée du film.
Mais c'est ni l'un ni l'autre. En fait, c'est quelque chose qui résonne, qui... On dit, ah, c'est comme une musique. On entend quelque chose. Ah, Christine, je peux dire, ces mots, je l'entends, je les entends. Et alors, c'est pas que c'est achevé ou inachevé, c'est que je suis deviens une caisse de résonance pendant un moment. Et à ce moment-là, il faut que je cherche la forme.
D'ailleurs, quand vous dites, on entend les mots de Christine Angot, nous aussi, hein. Il y a un moment où Sarah, elle dit, mais tu me coupes. Donc Sarah, c'est Juliette Binoche, un sublime personnage. On n'arrive pas à savoir si elle se comporte mal, si elle se comporte bien. On sent qu'elle est honnête, mais en même temps, elle est déchirée. Elle fait du mal quand même, mais elle fait au mieux, quoi. Et à un moment, elle dit, et c'est une scène de fou, parce qu'en fait, au moment où elle dit ça, elle est quand même plutôt la coupable, elle l'a quand même trahi. Et là, elle va sur un autre terrain, elle dit « mais tu m'empêches tout le temps de parler, ouais. Tu me coupes la parole ».
Et phrase à un souffle.
Exactement.
Tu me coupes le souffle.
Et là, on entend Christine Angot. Je ne sais pas si cette phrase...
Bien sûr, mais tu me coupes le souffle.
J'ai l'impression que c'est Angot presque qui parle quand elle dit ça.
Bien sûr, mais Christine me l'a dit déjà ça une fois, je l'écoute. Enfin, quand on se rencontre, on parle, évidemment. Et elle aime pas qu'on l'interrompe. Mais j'adore ça, moi. J'adore ça. Et je pense que ce qu'il y a de formidable dans cette façon pour Sarah de dire ça à Jean, c'est qu'elle est coincée, là. Elle est acculée par Jean. Et qu'en disant ça, elle lui dit « Donne-moi un peu d'air, quoi. Là je peux plus. » C'est ça qu'elle dit.
Mais c'est là que vous filmez. Enfin, j'ai adoré ce film, honnêtement. Mais c'est dur à comprendre comme ça quand on l'a pas vu. Je voudrais pas non plus tout spoiler, mais en fait c'est quasiment insupportable comme scène, parce que c'est lui qui peut pas respirer à ce moment-là.
Ouais.
Et elle lui dit, en fait, elle lui dit exactement, je crois, il y a un souffle dans une phrase. Tu ne m'interromps pas.
Ouais.
Mais lui, il souffre le martyr et il a juste envie de comprendre. Et elle lui demande de pas l'interrompre, et en même temps on la comprend.
Bien sûr, ouais. Je crois que dans ce genre de grandes engueulades où on se déchire quand on s'aime, il n'y a aucune raison, il n'y a aucune logique. Et simplement, il y a comme une... Ces mots déchirent et disent la déchirure. Elle voit, Sarah, qu'elle fait mal à Jean. Et Jean voit qu'elle pourrait lui échapper. Mais en même temps, ils sont ensemble à ce moment-là. C'est ça qui est très, très beau dans une engueulade de gens qui s'aiment. C'est que c'est un moment... On dit c'est le moment de la rupture. Mais c'est peut-être le moment où ils peuvent se retrouver aussi.
Surtout, s'il y a de l'honnêteté, votre façon de filmer montre que chacun, au fond, est dans sa logique, chacun est dans sa cohérence, et voilà. Et il y a cette phrase, vous dites, mais pourquoi on n'arrive pas à se parler? Mais ce que je voudrais quand même dire, et c'est ça qui rend le film complexe, et beau et ambigu, c'est qu'elle est très honnête. Parce qu'au début, elle le retrouve alors qu'il sort de prison, là je ne spoile rien, c'est le début du film, et en fait, elle lui dit... J'ai aperçu François. Elle lui dit la vérité.
Tout de suite.
Si elle voulait qu'il l'aide. Ouais. Mais lui, il sait pas parler. Lui, au lieu de répondre et de rentrer dans le dialogue, il s'enferme dans le mutisme. Et alors, on imagine que peut-être, si dès le début, il lui avait dit, ah bon, raconte-moi comment ça s'est passé, au lieu de se fermer, que peut-être tout aurait été différent.
Oui, c'est sûr. J'ai pensé aussi qu'il avait connu cette femme grâce à ce fameux François,
oui,
qui lui avait piqué cette femme, au fond, et que du coup, eh ben, quand on a pris quelqu'un à quelqu'un qui est un ami, il y a une espèce de culpabilité qui empêche... Enfin, je pense qu'il reçoit un scud, là, moi, je crois, quand elle lui dit « j'ai vu François ».
J'ai aperçu
François.
C'est encore pire, c'est juste le...
Non, elle l'a aperçu, ouais. Et elle est même pas sûre que François l'a vu. En fait, il l'a vu.
Ouais, ben ouais.
Parce que... Il machine tout ça, François, quand même.
Et c'est là qu'on comprend que ce film, c'est l'histoire, voilà, on ne connaît pas le passé, on ne voit que du présent, mais en fait, le passé est là, en embuscade. C'était Lonnie, le goût de l'orge.
Sous le soleil de Platon. Charles Pépin. Sur France Inter.
Nous sommes avec Claire Denis, nous parlons de l'âme, nous parlons de cinéma, nous parlons du merveilleux qui vient soudain traverser le réel. Ça me fait penser d'ailleurs à un titre d'un livre d'Elisabeth de Fontenay au sujet de Diderot, qui porte pour titre « Le matérialisme enchanté ». C'est assez beau parce que voilà, Diderot, c'est le matérialisme du 18e et en fait, il ne faut pas croire qu'il y a d'un côté le spiritualisme, de l'autre côté le matérialisme, il y a un matérialisme enchanté. Et ben c'est vrai que quand j'ai vu cette scène d'ouverture de votre film, quand il se retrouve et qu'il nage comme ça, alors on dit ça en plus à la fin de l'été, alors que les gens sont en train de terminer leurs vacances, ou peut-être les ont déjà terminées. Il m'a semblé qu'il y avait ça, un matérialisme enchanté. Alors j'ai une question à vous poser, Claire Denis, sur l'amour. Est-ce que ce que ça veut dire, puisque le passé est en embuscade et que finalement cet ancien amour revient, que lorsqu'on a aimé, en fait on ne peut jamais cesser d'aimer ? Parce que c'est, si je prends le livre de Christine Angot, elle a mis en exergue une citation de Shakespeare que je vais vous lire. « L'amour ne change pas avec les heures et les semaines éphémères, mais il reste immuable jusqu'au jour du jugement dernier. Et si cela est faux, et qu'on me le prouve, je n'ai jamais écrit, et nul n'a jamais aimé. »
Bah, je suis tout à fait d'accord avec William et Christine, parce que c'est la vérité. On ne peut pas arrêter d'aimer. On peut se déchirer, se quitter. Mais l'amour existe, ce choc d'une rencontre, il existe toute la vie, il tisse, on continue à tisser ces petits fils.
Mais comment on peut l'accepter quand on vient après ?
Quand on vient après, c'est dur, mais je crois que Jean, dans le film, il le sait qu'il vient après.
Oui, il le dit d'ailleurs.
Et ça le hante, en fait, c'est pour ça. Qui laisse presque s'insinuer François.
Il y a une très belle scène. Alors franchement, je ne vais pas la décrire parce que c'est une scène à la fin du film. Je dis juste qu'elle a lieu dans la salle de bain, je ne dis que ça. Mais là, Jean, donc, le personnage joué par Vincent Lindon, dit quelque chose de très beau à ce sujet. Voilà. Il dit que bon, quand on sait qu'on vient après, il y a des choses qu'il faut savoir accepter. La question, voilà, on comprend théoriquement qu'il faut accepter, mais et que la jalousie rétrospective est peut-être moins légitime encore que la jalousie normale. On le sait, mais ce que montre le film, c'est que c'est en fait insupportable. C'est ce qu'il dit. La scène qu'on a passée tout à l'heure, qui est tellement belle. Puis franchement, ils jouent merveilleusement bien. Ils jouent tous bien, mais là, Vincent Lindon, je trouve que il est vraiment dans un état de grâce dans ce film quand il dit mais dans ce cas-là, moi, je n'en ai rien à foutre. Le passé revient, mais je me casse. Moi, je m'en vais si le passé revient. C'est vrai, qu'est-ce qu'on peut faire, quoi, quand on arrive après ?
C'est déchirant et c'est comme quelque chose que, peut-être, le passé revient d'autant plus brutalement qu'on le sait qu'on est venu après. Donc, d'une certaine manière, on en souffre encore plus. Si on ignorait, mais de le savoir... C'est insupportable.
Ça veut dire que la lucidité n'apporte même pas de réconfort.
Non.
Et en plus, il y a une autre question que le film traite indirectement, c'est qu'en fait, on se dit d'habitude, bah oui, mais le passé attend en embuscade. D'accord, mais si ça va bien entre nous, on est protégé. Mais en fait, non. C'est ça qui est le tragique des histoires d'amour et le tragique de la vie. C'est pas parce qu'on est bien au présent que le passé ne va pas faire retour soudain.
Ah non, je suis d'accord. Dans l'amour, quand on est bien... On croit que le futur est gagné, mais en fait, c'est le passé qui est en embuscade, qui est tout le temps là.
Je trouve que Benjamin Biolay a écrit une chanson, là, je ne sais pas ce que vous pensez de Biolay, qui s'appelle « La mémoire », et il dit en très peu de mots quelque chose qui me paraît extrêmement puissant.
Je m'en souviens, j'ai tout oublié, mais tout me revient. On escaladait nu des montagnes de joie pour parvenir à cru au bout de nos chagrins. Je ne m'en rappelle plus, mais parfois me reviennent des rengaines insensées, 3 milliers d'éoliennes, des amours désossées et d'autres bien plus chiennes. Mais peu d'eau s'arranger, rien dont je ne me souvienne.
Alors c'était Biolay, La mémoire. J'ai tout oublié, mais je me souviens. C'est exactement ça, non?
Ben oui. Et c'est ça qui fait mal.
Je vous précise que la question du début de l'émission était sous l'égide de Jacques Lacan. Et c'était la question, au fond, que je voulais vous poser. J'avais cette idée qu'on pouvait s'en sortir en disant, voilà, la question n'est pas, au fond, est-ce que je suis fidèle à ma promesse, ou à mon engagement, ou à toi, ou à notre pacte. Mais, disait Lacan, et c'est la question que je voulais vous poser, à mon désir. Alors évidemment, donc c'est la fin d'un séminaire sublime, l'éthique de la psychanalyse, et c'est le résultat aussi de toute sa pratique clinique. Hein. Il dit, voilà, après 30 ans d'observation de mes patients sur le divan, je vois qu'en fait, ce qui fait qu'on est mal, c'est quand on cède sur son désir. Je vous propose d'écouter l'extrait en détail, et après de savoir si c'est comme ça que vous vivez et votre art et votre existence.
Je propose que la seule chose dont on puisse être coupable, au moins dans la perspective analytique, c'est d'avoir cédé sur son désir. Faire les choses au nom du bien, et plus encore au nom du bien de l'autre, voilà qui est bien loin de nous mettre à l'abri non seulement de la culpabilité, mais de toutes sortes de catastrophes intérieures. En particulier, cela ne nous met certainement pas à l'abri de la névrose et de ses conséquences. Ce que j'appelle céder sur son désir s'accompagne toujours dans la destinée du sujet de quelques trahisons. Où le sujet trahit sa voix, se trahit lui-même et c'est sensible pour lui-même, ou plus simplement, il tolère que quelqu'un, avec qui il s'est plus ou moins voué à quelque chose, et trahit son attente.
Alors voilà, Claire Denis, c'était une lecture de la fin du séminaire « L'éthique de la psychanalyse » de Jacques Lacan, dans lequel Lacan nous explique qu'il s'agit, alors non pas d'être absolument fidèle à cette espèce de désir inconscient, mais en tout cas de le trahir le moins possible.
Je suis d'accord. Je suis d'accord bêtement, platement, parce que j'écoute ces mots et bien sûr je ne peux qu'être d'accord, tout en sachant que c'est un supplice d'être d'accord.
Pourquoi ?
Bah parce que ça rend la vie très compliquée. Parce que ça amène tant de moments déchirants.
Oui, mais si on a ce souci d'être à l'écoute de ça, de ce désir de pas trop le trahir, on aura sûrement moins de moments déchirants que si on est complètement dans le flottement, dans la dispersion, dans l'égarement. Je vous pose aussi la question par rapport à toute votre carrière de cinéaste. Une de vos caractéristiques, et c'est tout à votre honneur, c'est la réinvention. Si vous avez une forme de créativité où vous prenez des risques, vous vous réinventez très souvent. Je vais prendre quelques exemples de, je peux pas citer tous vos films, mais quand même 88 Chocolat, 94 J'ai pas sommeil, 99 Beau travail, 2001 Trouble Every Day, 2002 Vendredi soir avec Vincent Lindon, 2009 35 Rhum, 2017 Un beau soleil intérieur, 2018 High Life, 2022 Avec amour et acharnement, 2022 Des étoiles à midi, Grand Prix à Cannes. Vous passez d'un genre à l'autre. Ça n'est possible sans dispersion qu'à la condition d'être un peu comme ça sur son axe ou fidèle à cette espèce de quête que Lacan appelle le désir.
Ben, je crois que bien sûr c'est mais du coup on paye ça aussi très fort parce que c'est comme avancer à la machette, être fidèle à son désir. C'est-à-dire que autour de soi il y a des moments où moi je voudrais trahir mon désir.
Vous l'avez peut-être fait, d'ailleurs.
Je l'ai fait.
Quel film ?
Non, c'est pas un film, c'est dans ma vie privée, mais je me disais, ben voilà, il faut... Non, je peux pas être comme ça tout le temps, mais en même temps, ça marche pas, bien sûr. Et en fait, être... cette infidélité n'arrange rien. Donc, je suis poussée par quelque chose que je comprends après, pas avant, à faire du mal ou à souffrir moi-même. Et je crois que le cinéma, c'est très particulier parce que dans le cinéma, on le voit d'une manière très simple en plus.
Ce moment de trahison ?
Ce petit moment où on a encore un peu le choix, mais ça ne dure pas longtemps.
D'ailleurs, c'est un peu le sujet de ce film aussi.
Oui.
C'est ce qui lui arrive à cette Sarah.
Bien sûr.
elle pourrait résister, parce que le cliché de l'attirance irrésistible, non, elle pourrait résister, simplement.
Ah voilà. Oui, elle peut résister.
Et puis finalement, non, mais bon, à peu de choses près, quoi.
Mais c'est ça qu'il lui reproche, au fond. Il lui reproche de pas... d'avoir joué avec un peu de résistance et pas tout à fait de la résistance. Au fond, c'est ça qu'il lui reproche.
Oui, il a vraiment, encore une fois, sans spoiler le film, une très grande noblesse d'âme, puisqu'il est capable d'accepter beaucoup de choses, capable d'accepter qu'il y avait un passé avant lui, mais simplement, il y a quelque chose qu'il n'accepte pas, et ça, c'était déjà très présent dans le roman de Christine Angot, c'est qu'il y a des... Parfois, quand on fait du mal, il y a des choses qui sont irrémédiables, quoi.
Oui, ça c'est sûr. Dans la vie amoureuse, dans la vie des mortels, je dirais que l'irrémédiable est là, ça c'est sûr.
Mais c'est ce que vous filmez très bien. L'irrémédiable pour Lacan, c'est de céder sur son désir. Et là, l'irrémédiable, c'est pas dans le regard de Jean, Vincent Lindon. Ça n'est pas qu'elle l'ait trompée, ou qu'elle l'ait embrassée, ou qu'elle ait passé deux heures dans un lit. C'est qu'à l'occasion d'une sorte de cocktail, quoi, elle l'est regardé lui après.
Oui.
Ça, c'est très touchant.
Oui.
On a tous vécu ça, en fait.
Oui.
La trahison ne se niche pas toujours là où on croit qu'elle est.
Non. Tu m'as regardé après.
Et elle est dingue, cette scène. Mm. Je pense qu'on peut en parler, de toute façon, ça donnera plutôt envie aux gens d'y aller que de se dire qu'ils ont tout. Mais c'est une scène qui est tellement à la fois simple et profonde, et il la joue tellement bien. Alors, Claire Denis, vous êtes... dans ce chemin de fidélité, il y a eu beaucoup de grandes rencontres, Juliette Binoche par exemple, ou Christine Angot. C'est quoi pour vous, pardon, une vraie rencontre? Ce qui fait que, voilà, c'est pas un simple croisement, mais que il se passe tout ce qui se passe après.
Les vraies rencontres, c'est des rencontres où peut-être rien n'est prévu, rien n'est organisé pour que quelque chose arrive. Et ça arrive. Si j'avais rencontré Christine ou Juliette pour que quelque chose, ou Vincent, pour que quelque chose arrive. Ça marche pas, ça. Il faut qu'il y ait un coup de foudre. Il faut qu'il y ait ça. Parce que sinon, ça peut pas, il faut être surpris soi-même par ce qui arrive. Je me souviens quand j'ai dit à Christine après une lecture à Avignon que j'avais envie de filmer cette lecture. Elle ne le croyait pas, Christine. Et je lui dis, mais si, tu vas voir. Je pense que c'est quelque chose qui est inattendu, voilà.
Vous vouliez filmer quoi exactement? Est-ce que vous voulez filmer le surgissement même des mots, ce truc qui arrive justement au moment où ça arrive et qui n'est pas anticipable?
Je pense que je voulais filmer ma rencontre avec Christine Angot.
Oui.
En fait, parce que moi, j'ai ressenti tout de suite quelque chose quand, bien avant d'adapter, de filmer des lectures qu'elle a faites à Avignon, avec deux comédiens, j'ai lu Christine. J'allais aux lectures, elle faisait des lectures à voix haute, au théâtre. Donc, voilà, il fallait que quelque chose se produise pour que l'étincelle arrive. Et c'est arrivé.
C'est ça. Et c'est pour ça que j'ai l'impression que dans tout votre cinéma, il y a cette idée d'être là au moment du surgissement. D'être là au moment...
Ah oui.
C'est presque, d'ailleurs, en philosophie, on appelle ça une approche phénoménologique.
Oui.
Vous savez, dans la tradition occidentale classique... En fait, les phénomènes sont secondaires. C'est juste ce qui apparaît secondairement, parce que la vérité, elle est là en amont. C'est l'essence. Mais en vérité, quand on est phénoménologue, comme Husserl ou Merleau-Ponty, on pense qu'il y a d'abord des phénomènes, et que c'est au cœur des phénomènes, donc de ce qui apparaît, de ce qui est visible, et bien que précisément la vérité surgit. Et c'est pas ça le cinéma?
Exactement. Ben, c'est comme ces images qu'on a vues dans...
Elles vous ont marqué.
La formation du monde.
Ouais, du télescope.
Qu'on sent qu'on est dedans sans être... encore là.
C'est
dingue, ça,
hein,
qui est, ouais, fou.
On n'a même pas encore surgi, mais peut-être la possibilité du surgissement, c'est ça qui apparaît devant nos yeux. Claire Denis, merci beaucoup. Je recommande votre film qui sort donc la semaine prochaine avec Amour et acharnement le 31 août, mercredi prochain. Et je vais essayer de résumer la philosophie de la vie et du cinéma qui a été la vôtre. Et bien justement, on en parlait, une approche phénoménologique, une approche où il s'agit de rendre sensibles les choses au moment où elles surgissent, dans leur vérité, dans leur beauté, bien sûr. Alors qu'est-ce qui surgit sous l'œil de votre caméra ? Eh bien le corps, eh bien le temps, eh bien l'âme, on l'a vu, l'âme de Grégoire Collin, l'âme de Juliette Binoche, l'âme de Vincent Lindon, l'âme de tous les autres. Qu'est-ce qui surgit ? Les sentiments aussi, les reflets. Et puis j'ai envie de dire une philosophie de l'honnêteté et de l'exigence. Un cinéma qui est capable aussi, tout cinéma soit-il, de s'effacer pour qu'il y ait un peu moins de mots parfois et pour qu'on puisse penser, pour laisser la pensée, pour laisser les sentiments comme ça éclore et finalement qu'on n'ait plus qu'à les accueillir et à penser à travers l'image, à penser comme ça avec les yeux. C'est peut-être une définition d'ailleurs du cinéma. Penser avec les yeux, penser avec les oreilles. Claire Denis, merci beaucoup de nous avoir rejoints ce matin sous le soleil de Platon. Cette émission, merci à vous, a été préparée, merci beaucoup, par Vera Lou Derry et Fabrice Rivaud, réalisée par Camille Maty, à la programmation musicale Valentine Chouettebois, et merci pour les Tindersticks, je vais essayer de bien le dire, Tiny Tears, à la technique Kevin Pelot. Quant à moi, je vous retrouve demain matin à 9h précisément, sous le soleil de Platon, avec, figurez-vous, Christine Angot. À demain matin.